France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien vous fasse. L'un de nos invités, Mathieu Vidard, ne s'est pas tourné les pouces pour écrire son livre consacré à ce doigt qui compte tellement dans notre vie quotidienne qu'on en oublie son importance capitale, le pouce du ventre de la mère où nous avons commencé à le sucer, au biberon, à la cuillère, à la fourchette, au couteau, au livre, au smartphone, au stylo, au ciseau, au pince, au pinceau, à ces mille et un objets que nous manipulons du matin au soir grâce au pouce. Que serait notre vie quotidienne sans ce pouce opposable mais qui nous permet l'appréhension, ce petit geste qui nous a permis d'accomplir de grandes choses au cours de notre évolution humaine. Aristote appelait d'ailleurs le pouce l'instrument des instruments. Une émission en forme de kaléidoscope où l'on s'intéressera également au pouce des chimpanzés, à la succion du pouce du bébé, au pouce levé des likes des réseaux sociaux mais aussi à quelques expressions comme manger sur le pouce, ce que je ferai tout à l'heure car je dois enregistrer à 13h une émission sur les recettes de cuisine ratées. Nos invités attendent toutes vos questions sur le pouce, sur WhatsApp et au standard au 01 45 24 7000 en laissant message et note vocale sur l'appli France Inter sans oublier la page Facebook de Grand Bien vous fasse où vous pouvez laisser des pouces levés si le cœur vous en dit. Bienvenue dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Ali Rébéi, Grand Bien vous fasse.
Ce qui différencie vraiment les êtres humains des animaux, c'est pas les griffes ou les écailles, les coussinets ou faire des gâteaux. Mais là où on les baisse tous, c'est que nous on a des pouces opposables. Ça nous permet de faire des trucs qui feraient sauter tous les kangourous. J'en jouais à la console ou jongler avec des petits cailloux.
Bonjour Mathieu Vidard.
Bonjour Ali.
Vous connaissiez cette chanson consacrée au pouce interprétée par le groupe Princesse Léa ?
Non mais vous le dites tout.
Vous produisez La Terre au Carré sur France Inter et Science Grand Format sur France 5. Vous dirigez la collection Terre et Science chez Grasset et vous publiez chez Grasset sur le pouce, un petit doigt pour la main, un pas de géant pour l'humanité. Un livre sur le pouce, quelle drôle d'idée vous a-t-on souvent répondu à l'annonce de ce livre ?
C'est vrai, oui. Dès que je disais que j'étais en train de préparer un livre sur le sujet, j'avais vraiment les yeux de mes amis. Tu vas réussir à écrire plus de 50 pages sur la question. Et en fait, oui, il y a vraiment beaucoup de choses à raconter. Et c'est vrai qu'au départ, le pouce, ça peut sembler totalement anecdotique, cette espèce d'appendice là qu'on a dans la main et à laquelle on ne pense absolument pas. Et puis, en préparant la documentation du livre avec Lucie Sarfati, qui travaille avec moi à La Terre au Carré, on a commencé à compiler tous les sujets qui concernaient le pouce et on s'est aperçu très rapidement qu'en réalité, ce doigt, il racontait vraiment une grande, grande, grande histoire, une longue histoire, celle de notre humanité. Et on peut même dire que notre humanité ne tient qu'à un pouce.
300 pages, 300
oui,
pages
monsieur.
Sur le pouce.
Écrit petit.
C'est absolument passionnant. Écrit petit, je vous l'ai dit, hors antenne. Alors, le petit Robert de la langue française nous dit que le pouce est le premier doigt de la main de l'être humain, le plus gros, formé de deux phalanges opposables aux autres doigts. Pourquoi parle-t-on de pouce opposable ?
Ben en fait, le pouce opposable, c'est quelque chose que j'ai d'ailleurs compris petit à petit grâce, entre autres, à Sabrina Krieff, qui est primatologue. En fait, si vous regardez votre main, là, en ce moment, vous avez donc votre pouce et votre index, et vous arrivez, en fait, vous pouvez mettre la pulpe de votre pouce sur votre index. Et c'est le seul doigt qui permet de faire ça, parce qu'il est impossible de le faire, par exemple, entre l'auriculaire et l'index. Ou alors, si vous arrivez à le faire, vous m'appelez, parce que
oui,
ça m'intéresse.
Vous appelez le standard, si vous y arrivez.
C'est ça. Donc, c'est vraiment cette pince. Et cette pince, ça nous permet de saisir donc absolument tout de façon très fine. Alors, des choses, par exemple, imaginez, vous avez des petites perles sur la table, vous pouvez les saisir avec cette pince. Mais également, ça nous permet une préhension de force quand vous tenez, par exemple, un marteau. Donc, vous arrivez à verrouiller avec votre pouce les objets. Et ça, c'est absolument essentiel. Et ça a été un avantage majeur dans notre évolution.
Et quand on prend le temps d'observer son pouce, cela devient fascinant. Quand j'ai commencé à écrire cette émission, j'ai pris le temps de porter toute mon attention sur ce pouce opposable que j'avais tendance à négliger. Alors sans lui, je n'aurais pas pu prendre de notes écrites sur votre livre, ni tenir dans mes mains votre ouvrage. Ce pouce qui nous permet d'accomplir mille et une choses. Et c'est pas un hasard si Aristote appelait le pouce l'instrument des instruments. Nous oublions l'importance fondamentale de ce pouce opposable.
Ouais, on a été vraiment dotés de cet outil absolument majeur dans l'histoire des primates. Alors c'est pour ça que je suis pas d'accord avec la chanson qu'on entendait, parce qu'il n'y a pas que l'humain Homo sapiens qui possède cette pince opposable. Ce sont tous les primates a priori. Il y en a quelques-uns qui n'en ont pas, mais c'est vraiment pas un truc d'Homo sapiens. Ça, hein. C'est vraiment toute la lignée humaine qui possède un pouce opposable.
On va y revenir ce matin. Vous dédiez votre livre, Mathieu Vidard, à votre fidèle pouce gauche qui était pendant longtemps un compagnon très réconfortant, un réconfort qui a tout de même duré assez longtemps au grand dam de votre mère.
Oui, très très longtemps. Moi, j'ai vraiment soucié mon pouce jusqu'à même après la majorité, hein, et même encore à l'âge adulte, ça m'est arrivé de pouvoir avoir envie, en tout cas, de sucer mon pouce dans des moments particuliers, je sais pas, de stress où j'avais besoin de réconfort. Et c'est ça aussi l'avantage majeur de ce pouce pour les enfants, c'est qu'il vous permet d'avoir une espèce de d'auto-déstressant, quoi, à portée de main. Et donc c'est formidable. La succion, c'est vraiment quelque chose aussi qui calme, qui nous permet de fabriquer aussi de l'endorphine. Donc ces hormones de l'apaisement. Et donc dans la succion du pouce, il y a tout ça.
Bonjour Nathalie Lancelin-Huin.
Bonjour.
Vous êtes psychologue spécialisée en périnatalité, spécialiste de la vie intra-utérine et de la vie intérieure. Vous avez publié Le choix d'être parent, quelle place pour ce projet dans le monde de demain et La vie commence avant la naissance, publié chez Josette Lyon. Vous intervenez dans le livre de Mathieu Vidard. Vous nous direz tout à l'heure s'il faut empêcher les enfants de sucer leur pouce au-delà de 4-5 ans. En tout cas, sucer son pouce dans le ventre de la mère est naturel pour le fœtus.
Oui, en tout cas, on observe, c'est un constat, que les bébés trouvent le chemin de leur pouce dans le ventre de leur mère. Alors, il faut se rappeler qu'il y a un environnement aquatique qui favorise ça. Il y a aussi toute la magie de l'embryologie et la mécanique qui va de l'épaule jusqu'à la main et ce pouce très spécifique. Mais ce que je trouve vraiment émerveillant de précision, c'est la forme même du pouce. Si là, on regarde, on met son pouce avec l'ongle sur le plat, par exemple, de quelque chose et qu'on regarde toute cette pulpe du pouce qui est incurvée, on pourrait même faire des études pour regarder la cavité buccale et le palais d'un bébé, parce que en fait, ça rentre exactement bien dedans. Et ça permet d'avoir la chair du palais et la pulpe de la langue, et aussi de faire des petits mouvements de succion qui apparaîtront petit à petit et qu'on gardera dans la vie extra-utérine une fois née, et qui permettent certainement alors de sécréter entre autres des endorphines, mais il y a quand même aussi une notion de rythmicité quand on suce son pouce. Il y a quelque chose de très apaisant, mais je fais même peut-être l'hypothèse, je vais peut-être un peu vite, mais de quelque chose qui est de l'ordre d'une complétude. Il y a un contact et il y a quelque chose de très enveloppant dans le fait de sucer son pouce. Donc oui, on observe à l'échographie des bébés qui sucent leur pouce. On ne peut pas savoir dans quelle longévité de la grossesse, de la gestation, mais oui, effectivement.
Vous me disiez qu'ils pouvaient aussi sucer leur cordon ombilical, hein,
oui,
ou leur gros orteil.
Tout à fait. Ce qu'ils trouvent sur leur passage, hein, il faut imaginer ce monde fluide, ce qui passe dedans et puis le fait qu'ils explorent leur environnement qui est quand même très spécifique.
Et donc le nourrisson a une prédisposition naturelle à la succion du pouce pendant au moins les 6 premiers mois de sa vie.
Oui, il y a quelque chose qui est mis en place par la biologie. Hein, si on s'intéresse à l'embryologie, à la continuité de la vie extra-utérine, il y a effectivement quelque chose de cet ordre-là qui se fait assez naturellement. Et c'est là où on va rajouter, au-delà du fer, de ce qui va nous servir à faire ce pouce, on va rajouter la notion aussi d'apaisement, la notion de contentement, que ce soit pour l'anxiété, l'ennui, mais aussi la stimulation. Mais certainement quelque chose de plus aussi que je trouve très intéressant peut-être, c'est le fait que ça nous rappelle le monde d'avant. Dans lequel un monde métasensoriel extrêmement... voilà, en tout cas, quand ça se passe bien dans le ventre d'une mère, quelque chose de très réconfortant.
Et vous pensez que le bébé se souvient finalement de cette étape intra-utérine où vous dites qu'il était finalement maître de son vaisseau, hein, parce que oui. Le ventre de la maman, c'est quasiment un vaisseau liquide extraordinaire.
Oui.
Et donc, en suçant son pouce une fois né, ce serait presque une façon de se remémorer, peut-être inconsciemment en tout cas, l'univers, l'environnement liquide dans lequel il a grandi.
C'est une hypothèse qu'on peut faire. Après, on l'a fait depuis notre monde, hein, de manière ouais. anthropocentrée. Mais quelque part, en tout cas, on sait que le bébé a une mémoire, de par des tas d'études, en fait, de choses qu'il retrouve une fois né. Et donc, effectivement, quand même, ce pouce est quand même, vous l'avez dit, un outil absolument incroyable, mais il fait partie aussi dans le cerveau de quelque chose de très, je redis, central. Enfin, il y a vraiment quelque chose au niveau de ce pouce. Et je pense qu'effectivement, il nous rappelle quelque chose, comme le liquide, comme l'odeur de notre mère, comme le bruit de son cœur, le rythme, etc., l'odeur de sa peau. Je pense que le pouce, qui est quand même contrairement à la tétine, accroché, arrimé à notre main, et quelque chose qui nous ramène vraiment à ce monde intra-utérin, aussi une fois né.
Oui. Bonjour Sabrina Krief.
Bonjour.
Vous êtes médecin vétérinaire, primatologue, vous êtes professeur au Muséum d'Histoire Naturelle, et vous avez publié chez Actes Sud, Chimpanzés, mes frères de la forêt. Nous partageons avec les chimpanzés près de 99% d'ADN. Les chimpanzés sont aussi nos frères en termes de pouces opposables. Nous ne sommes pas la seule espèce à détenir un pouce opposable, comme le chantait Princesse Léa en début d'émission.
Oui, bah, comme le rappelait Mathieu, effectivement, dans la lignée humaine, mais même au sein des primates, le pouce est opposable, relativement opposable. Hein, je pense qu'on va le détailler un peu plus, mais en tout cas, les chimpanzés font usage de leur pouce aussi pour utiliser des outils. Ils parfois sucent leur pouce, leur orteil en fait, ou leurs lèvres. Ouais. Je ne sais pas ce qui se passe dans la vie intra-utérine des chimpanzés, mais néanmoins, on voit ce réflexe de succion qui intervient surtout au moment des frustrations, en fait, quand le petit est séparé trop tôt de sa mère, donc parfois il va sucer sa lèvre ou son gros orteil. Et le pouce, en fait, est le seul doigt chez les chimpanzés dont on voit pas l'empreinte dans le sol, parce que au niveau de la locomotion, c'est le seul doigt qui n'intervient pas en locomotion terrestre. Par contre, évidemment, il a un rôle prépondérant dans tous les autres types de locomotion arboricole. Et donc c'est là aussi où on voit la part évolutive entre les primates et les primates humains.
Et c'est quelque chose d'ailleurs que je trouve très émouvant et que j'ai retrouvé d'ailleurs dans un spectacle récemment de l'historienne Estelle Zhang, parce qu'elle parlait du pouce à la fin de son spectacle et elle disait finalement quand on regarde notre main, c'est aussi un héritage de ce passé dans les arbres. C'est cette histoire de la forêt aussi, parce que nous venons de la forêt avant d'être bipèdes, nous étions justement dans les arbres. Et quand on réalise cette pince, quand on pose vraiment le pouce contre l'index, on a quasiment l'espace pour que la branche s'installe, pour accrocher une branche. Et quand on regarde notre main comme ça, il y a quelque chose vraiment de troublant de se dire que voilà, c'est aussi cette mémoire qui existe encore là dans nos mains.
Et vous écrivez, Mathieu, que notre pouce constitue un pan entier de notre histoire. C'est un lien entre notre passé de primate arboricole et notre condition d'être pensant, fabricant d'outils sophistiqués. Sabrina Krief.
Oui, parce que effectivement, les chimpanzés utilisent et fabriquent des outils en bois, avec des baguettes, etc. Ils ont aussi cette possibilité de précision et de force grâce au pouce, mais évidemment pas au niveau des humains. Et donc la sophistication des outils, la très grande précision dont l'humain est capable, a été acquise au cours de l'évolution. Et ce qui est aussi assez étonnant, c'est que quand on compare une main de chimpanzé et une main d'humain, en fait, on a toujours l'impression que notre main, nous humains, avons évolué alors que les autres primates non. En fait, c'est l'inverse qui s'est passé. C'est la main du chimpanzé a évolué pour que ses autres doigts, les quatre autres doigts de sa main, s'allongent de façon à améliorer sa locomotion arboricole, alors que probablement, notre main ressemble plus à la main de notre ancêtre commun. Et donc ça, c'est assez étonnant aussi, ce que l'histoire du pouce et de sa proportion avec les autres doigts peut nous apprendre.
Et notre main, en fait, elle a quasiment 7 millions d'années. Elle n'a pas bougé depuis quasiment 7 millions d'années, alors que celle des chimpanzés, précisément, elle a beaucoup évolué. Et en fait, elle est suffisamment efficace pour ne pas avoir besoin de se modifier au fil du temps.
Hein. Voilà, exactement. Et en fait, pour les chimpanzés, le pouce est un encore plus petit doigt hein, que pour nous en termes de proportion, puisque c'est la vraie différence. Enfin, mon pouce fait la même taille que le pouce d'un chimpanzé adulte. Par contre, mes quatre autres doigts sont extrêmement plus petits, et ce qui fait la particularité des doigts des primates et des premiers humains, ce sont donc ces longs doigts incurvés qui facilitent l'appréhension dans les arbres.
Alors Mathieu Vidard, à propos d'outils sophistiqués, je pense aux écrans d'ordinateur ou au téléviseur. Pourquoi parle-t-on de la taille d'écran en pouces? On peut acheter un téléviseur 50, 55, 60 pouces. Pourquoi exprime-t-on la mesure de la diagonale des écrans en pouces?
C'est une unité de mesure des pays anglophones, en fait, au départ, qui remonte d'ailleurs assez loin, hein, quasiment au Moyen-Âge, puisqu'on retrouve des rois écossais, par exemple, qui avaient défini le pouce comme étant la mesure précisément de la largeur du doigt, du pouce. Donc, ils avaient calculé à peu près, déjà à l'époque, ça faisait quasiment un peu plus de 2 cm. Et puis ensuite, donc cette unité de mesure est restée pour les pays anglo-saxons. Et puis au milieu du XXe siècle, il a fallu quand même uniformiser un petit peu tout ça, trouver des standards communs, parce que c'était évidemment la mondialisation qui faisait que le commerce entraînait donc des échanges internationaux. Et donc il a été acté que le pouce faisait 2,54 cm, se basant en fait sur la longueur de la phalange jusqu'au bout de l'ongle. Et donc à peu près, évidemment, ça dépend des individus. Hein. On n'a pas tous la même taille, mais en gros, ça fait 2,54 cm. Et donc ça a été la référence absolue. Et donc pour les écrans, par exemple d'ordinateur ou télévision, les Américains, quand ils ont commencé à vendre des téléviseurs, en fait, pour essayer de donner envie d'avoir des grands écrans chez soi, ils prenaient la diagonale en fait de l'écran calculée en pouces, parce que ça donnait un chiffre plus important, et donc c'était un argument marketing en réalité. Et en France, en Europe, on a gardé ça en fait, le pouce nous sert encore pour calculer la taille des écrans.
Allez, on continue à retracer la passionnante histoire du pouce, ce sera juste après avoir écouté une chanson de circonstance, dans cette grisaille automnale, laissons entrer le soleil de Julien Clerc, un titre sorti en 1968. Mathieu Vidard n'était pas encore né.
Eh non,
10h21 ça n'est pas tardé, hein. Sur France Inter.
On se guette, traqué à bout de souffle marchant, pétrifié dans nos manteaux d'hiver, refoulé aux frontières du mensonge des nations qui crèvent. Tu es par des chimérique, écrasé de certitude, dans un monde glacé de solitude. Savoir si quelque part il y a l'espoir d'être un jour les enfants du hasard. Je vois ma vie projeter son futur dans l'espace. Chester, England, England. Manchester, England, England. Au bout de l'Atlantique, je suis un génie, génie. Et je crois en Dieu. Et je crois que Dieu en clôt un foie. Et
Julien Clerc, laissons entrer le soleil.
Grand bien vous fasse.
Oui, Agnan.
Ali Rébéi.
Le petit pouchet s'appelait le petit pouchet parce qu'il était petit comme un pouce.
Sur France Inter.
Voilà.
Comment le pouce a changé la face de l'humanité, c'est notre thème ce matin, à l'occasion de la sortie de Sur le pouce de Mathieu Vidard. Avec nous également la vétérinaire et primatologue Sabrina Krief et la psychologue spécialisée en périnatalité, Nathalie Lancelin-Huin. Michel qui nous dit que le pouce est un avantage majeur, bien vu. Ensuite Emma nous dit « j'arrive à faire une pince avec mon index et mon auriculaire ».
Oh, bravo. Incroyable.
Envoyez-nous la vidéo, s'il vous plaît.
Alors faire une pince, Emma, je veux bien, mais poser les pulpes de l'index et de l'auriculaire, moi je veux une photo. Hein,
on veut une photo, on veut une vidéo. Tiens, une auditrice nous demande pourquoi dit-on un coup de pouce, Mathieu Vidard, parce qu'il y a un chapitre consacré aux expressions autour du pouce, et il y en a beaucoup. Hein.
Ouais, alors le coup de pouce, c'est l'action concrète et décisive. Alors c'est une expression assez récente qui fait référence en fait au verbe pousser. Donc on donne un coup de pouce, on pousse. Mais alors ce qui est marrant, c'est qu'avant ça, au 19e, quand on donnait un coup de pouce, en fait, ça voulait dire étrangler, parce qu'on pouvait serrer avec les pouces. Mais bon, cette expression-là, évidemment, on l'oublie heureusement. Donc le coup de pouce est tout à fait positif aujourd'hui.
Alors, nous l'avons dit tout à l'heure, l'humain n'est pas la seule espèce à être doté d'un pouce opposable. Mais qu'est-ce qui nous distingue des autres primates, Sabrina Krief?
Bah, probablement le fait que ce pouce est devenu vraiment indispensable dans la majeure partie des actions de notre vie. À savoir que parmi les 500 espèces de primates qui existent aujourd'hui sur la planète, certains n'ont pas de pouce. Le pouce a vraiment régressé. Et même pour l'arboricolie, en fait, ce pouce n'est pas forcément indispensable. C'est-à-dire que les quatre autres doigts, par exemple, en suspension, sont vraiment majeurs. Souvent, le pouce n'est même pas sollicité quand les autres primates se déplacent en suspension dans les arbres. Par contre, pour grimper et pour vraiment faire une pince efficace, une saisie de force, là, il devient très important.
Quel est le primate qui présente une proportion de main qui se rapproche le plus de la main humaine ? C'est le gorille, peut-être ?
Le gorille, en fait, ce qui ressemble le plus à la main humaine, notamment chez les grands singes, c'est le pied.
Ah, c'est le pied.
Ouais, là, les proportions et vraiment la capacité de saisie est plus importante dans le pied des chimpanzés et des gorilles, par exemple, que dans la main.
Il y a le gélada aussi, qui est un primate qui vit en Éthiopie, je crois, et qui présenterait vraiment une main assez efficace et similaire à celle d'Homo sapiens.
Oui, effectivement, parmi les primates qui ne sont pas des grands singes, certains, notamment de la famille des babouins, ont des mains aux proportions similaires, mais pas forcément à l'efficacité similaire. Alors que les pieds des grands singes ont vraiment cette, quand on les compare, cette forme entre le pouce et l'index qui ressemble à celle des humains.
Et puis il y a certains singes, comme le singe à tailes par exemple, qui a une queue qui lui sert de main quasiment en fait,
pour
se déplacer dans les arbres. On voit vraiment ces singes araignées, c'est l'autre nom des singes à tailes, qui se déplacent vraiment très facilement.
Parmi les primates, en fait, les primates d'Amérique ont développé un cinquième membre grâce à la queue, donc qui permet à la fois d'équilibrer, de faire de l'appréhension, etc. Et chez les grands singes, la bouche joue ce rôle-là, notamment chez les orang-outans. Et donc, c'est une sorte d'exaptation. Hein. Si on reprend aussi dans le livre de Mathieu, il parle du pouce des pandas. Là aussi, c'est une sorte d'adaptation opportuniste pour remplir une fonction qui n'est pas forcément remplie par le pouce ou la main. Et donc, par exemple, les orang-outans ou les chimpanzés utilisent leur bouche pour faire plein de choses, notamment utiliser des outils. Et ce fameux pouce du panda n'est absolument pas un pouce en lui-même, c'est un sixième doigt qui pourrait ressembler à un pouce, mais ses cinq autres doigts en fait sont alignés et donc c'est une modification de la main et du poignet pour faire une sorte de gouttière et lui permettre de...
C'est un os en fait, hein. Ouais. C'est un os du poignet, c'est l'os sésamoïde du poignet, donc c'est pas du tout un pouce anatomique, mais l'évolution a fait que le panda, comme il mange que des bambous, d'ailleurs toute la journée, hein, il fait que ça, 12-15 heures par jour, il lui faut 45 kilos de bambou, donc voilà, il défait qu'à peu près 100 fois par jour, enfin, c'est un truc incroyable. Panda géant, j'ai découvert toute la littérature du panda géant, grâce à Stephen Jay Gould d'ailleurs, qui a écrit ce livre génial en 1980, et qui raconte vraiment que l'évolution, effectivement, a fait quelque chose de très opportuniste, mais en fait, c'est du bricolage, quoi. On pense toujours que l'évolution, c'est pour choisir les caractères les plus sophistiqués, le design le plus formidable, en fait, c'est pas vrai du tout. C'est-à-dire qu'il y a vraiment aussi, dans l'évolution, des moments où ça bricole, où il faut...
certaines espèces, ça semble vraiment indispensable, et en fait il nous suffit d'avoir quelques exemples où on voit donc des primates sans pouces pour se dire en fait c'est pas forcément si utile. Et par exemple les chimpanzés, quand ils utilisent des outils, n'utilisent pas forcément le pouce, ils utilisent très souvent leur index et leur majeur pour coincer la branche entre et ensuite aller pêcher, ou bien quand ils utilisent leur pouce, c'est pas forcément de façon opposable comme Mathieu l'a décrit, mais vraiment en serrant le pouce, mais du coup pas la pulpe du pouce. Et donc l'outil est coincé vraiment dans le creux de la jonction entre l'index et
Mais quand ils sont des papouilles et qu'ils s'enlèvent les tiques ou
alors
les
là, ils sont très précis, lapin, extrêmement très précis, ouais. Avec vraiment la pointe du doigt et la pointe des doigts et la pulpe des doigts, mais aussi parfois quand ils ramassent une petite herbe ou voilà, ils sont capables d'être extrêmement précis, mais c'est pas forcément la façon la plus efficace.
Alors Mathieu Vidard, à quand remonte le pouce opposable? Il faut remonter à quoi? À 65 millions d'années où un doigt commence à présenter une particularité, ouais. Et puis on a évidemment assisté à de grands changements anatomiques au cours des
C'est ça, ouais.
En fait, qui ont suivi.
En fait, on arrive vraiment. Les dinosaures disparaissent. Il y a quand même déjà des mammifères qui sont là, donc il y a des niches qui sont laissées vacantes. Donc les mammifères se développent. Donc il y a 65 millions d'années, fin des dinosaures, fin du Crétacé. Et puis là, on va apparaître les premiers primates. Et alors, il y a quelque chose d'assez intéressant chez ces premiers primates, c'est que ils ont déjà un doigt qui n'a que deux phalanges par rapport aux autres, puisque notre main, c'est ça, hein, c'est trois phalanges pour les quatre doigts et le pouce avec seulement deux phalanges. Et puis, il y a 45 millions d'années, arrivent les catariniens, donc ça, c'est une autre catégorie de primates qui, eux, en plus, vont transformer les griffes en ongles.
En ongles plats.
En ongles plats. Et ça, ça va être aussi une évolution majeure pour la saisie, par exemple, pour s'accrocher aux branches. Et pour l'instant, le fossile le plus ancien qu'on ait découvert de primates possédant un pouce opposable, il date de 47 millions d'années. C'est un fossile qui s'appelle Ida, qui a été découvert dans une mine allemande, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, dans les années 80. Et Ida donc possède, en plus il est très très bien conservé, c'est un squelette de petit animal. Le squelette, il est conservé à 95% et il y a un pouce opposable déjà à ce moment-là. Donc 47 millions d'années, donc c'est vraiment très très ancien.
Alors au fil de l'évolution humaine, notre préhension devient de plus en plus précise. Pourquoi l'apparition de la bipédie humaine, il y a environ 2 millions d'années, est concomitante d'une plus grande précision du pouce opposable? Expliquez-nous, Mathieu Vidard.
Ben là, les chercheurs ont fait une étude assez intéressante parce qu'ils se sont amusés à comparer. Alors, le genre Homo, donc nous, on fait partie de la grande famille des Homo, donc Homo sapiens. Et puis, ça commence cette famille-là il y a à peu près 2,5 millions d'années. Le premier du genre Homo, c'est Homo habilis, l'homme habile qui fabrique des outils. Et ce qui est très drôle, c'est que les chercheurs se sont aperçus, en faisant des comparaisons anatomiques à partir de la 3D, en comparant différentes mains, c'est que notre main, justement, d'Homo, s'est renforcé en fait musculairement avec un muscle majeur qui s'appelle le muscle opposant, justement l'opponens pollicis, et qu'à partir de 2 millions d'années, il y a vraiment un truc qui se passe et que ne possèdent absolument pas tous nos ancêtres, tous nos cousins éloignés. Donc ce genre Homo, il fabrique vraiment une pince avec un muscle beaucoup plus performant, beaucoup plus puissant, et ça, c'est concomitant effectivement avec la fabrication d'outils, même si on a fabriqué des outils un million d'années plus tôt.
Et vous citez le philosophe des sciences Chris Hersfeld, je le cite, « Libéré de la fonction motrice de la bipédie, les mains de notre espèce Homo sapiens se sont spécialisées dans des compétences manipulatoires extrêmement sophistiquées. »
Voilà, et le fait de pouvoir tailler des pierres, tailler des silex, pouvoir découper de la viande, bah, ça va changer vraiment la vie de nos ancêtres, parce qu'évidemment, en mangeant d'autres nourritures, en ayant accès à d'autres aliments, eh bien on va aussi modifier le cerveau. Donc parallèlement aussi à un pouce qui va évoluer, notre cerveau aussi va se distinguer. Et donc c'est toute cette histoire aussi qui se passe à cette époque.
Peut-on dire que c'est l'évolution du pouce qui a permis l'usage des outils, ou est-ce l'évolution du pouce qui a consolidé les usages?
Oui, c'est ça plutôt. Parce qu'en fait, notre main, on le disait tout à l'heure, elle était prête il y a 7 millions d'années. Donc on aurait pu fabriquer des outils il y a 7 millions d'années, Sabrina, hein?
Oui, et puis de toute façon, les primates et d'autres espèces animales fabriquent des outils. Donc c'est assez ambigu cette question. Hein. Il n'y a pas de savoir ce qui a précédé l'un ou l'autre, etc. Mais évidemment, comme Mathieu l'explique très bien, ça s'est consolidé, ça s'est renforcé, ça s'est amélioré en précision et en force pour aboutir à la fois une fonction et des objectifs différents. Quoi.
Tiens, une chose nous différencie du chimpanzé, Mathieu Vidard, c'est la capacité de la main à frapper à coups de poing. avec un rôle très important du pouce.
Alors ça, je le dis tout de suite, je prends des précautions, c'est une étude qui est très contestée.
Oui, vous le dites dans le livre.
Mais qui m'a amusé, voilà. En même temps. Il y a des chercheurs qui ont prétendu que le Homo sapiens, c'était la seule espèce qui était capable d'envoyer des coups de poing à la figure de ses congénères. Ce qui n'existe pas, paraît-il, chez les chimpanzés. C'est-à-dire qu'on peut se bagarrer, Sabrina, mais est-ce qu'on s'envoie des coups de poing à la figure?
Ouais, non, enfin, on peut s'envoyer plein de choses à la figure. Des claques, effectivement, peut-être plus main ouverte, et éventuellement l'utilisation d'outils et d'armes avec des morceaux de bois.
Donc ils sont partis de ce principe-là, qu'on aurait été les seuls, en tout cas, à envoyer le coup de poing, mais que aussi, justement, en mettant notre pouce sur les autres doigts, on protégeait finalement notre poing, on lui donnait une puissance particulière et surtout, on protégeait les ossements de la frappe. Donc ça aurait joué un rôle dans l'évolution, ça aurait même peut-être fait évoluer la face en même temps. Mais alors ça, c'est très contesté, mais j'ai trouvé ça tellement barré, en fait, que ça m'amusait de l'indiquer dans le livre.
J'ai sucé mon pouce avant ma naissance. Je suçais mon pouce dans le ventre de ma mère. Je suis née avec un calme sur le pouce. Donc c'est très vieux cette affaire.
Et puis par la suite?
Non, après bon, c'était occasionnel comme ça, dans des moments de peine ou de grande fatigue. Mais je me surprenais à vouloir prendre mon pouce. J'avais 17-18 ans.
Extrait d'un JT TF1 en 1997. Cette jeune femme suçait son pouce dans le ventre maternel. Nathalie Lancelin-Huin, je rappelle que vous êtes psychologue spécialisée en périnatalité. Pourquoi le fœtus suce-t-il son pouce? Et tous les fœtus suce-t-ils leur pouce?
Alors, comme on le disait tout à l'heure, c'est difficile de répondre à cette question, hein. Ce serait même prétentieux d'y répondre. C'est un monde quand même très singulier et on... Le bébé, on pourrait dire, Sabrina, est un petit mammifère, finalement. Il retrace l'histoire de la vie, mais dans un monde extrêmement sensoriel, on l'a déjà dit tout à l'heure. Il trouve plus le chemin de son pouce, certainement plus qu'il ne le suce vraiment, parce que je ne sais pas quelle intentionnalité on peut lui prêter. Mais je pense qu'il y a plutôt quelque chose de l'ordre de l'être. Il n'y a pas grand-chose à faire, on pourrait dire, dans le ventre, hormis explorer la vie. Et finalement, il y a quelque chose, je le redis, parce que je crois beaucoup à ça, de l'ordre de la complétude. Quand, si on développait un peu de ce monde intra-utérin, il y a vraiment quelque chose, je redis, de la forme de ce pouce avec la forme du palais, et les choses sont à juste mesure. On parlait tout à l'heure des doigts pour les grands singes, on parlait aussi la dimension du bras. Si on regarde le bras et l'avant-bras, le pouce rentre directement à bonne distance, hein, on parlait de mesure. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la complétude. On parlait aussi de l'agressivité, de la force, de la puissance du pouce, mais il y a aussi la douceur du pouce dans l'autre polarité. Et il y a quelque chose de l'ordre de l'être plus que du faire aussi. Et peut-être que le monde, c'est une hypothèse qu'on peut faire, entre autres en tout cas, le monde de l'intra-utérin est peut-être le monde de l'être. Donc il y a quelque chose d'assez complet, avec des contacts différents qui vont plus être de l'ordre de l'affectif et du psychologique, peut-être de l'émotionnel, mais pas au sens de l'humain une fois né, mais au sens de quelque chose de plus instinctif et intuitif.
Mathieu ?
En tout cas, c'est vrai que le fait de sucer son pouce dans le ventre de la maman, cette succion, ça prépare aussi l'enfant à sa nouvelle vie une fois qu'il va naître. Parce qu'il va falloir cesser, le sein de la maman ou le biberon ou la tétine. Oui. Et donc on peut imaginer qu'il y a un apprentissage déjà au fond inné et là, qui se fait dans le milieu intra-utérin.
Comme tous les sens, ils sont préparés, on pourrait dire, à la vie extra-utérine. Donc oui, il y a une continuité, c'est vrai. Mais je pense qu'on a tendance souvent à prêter des intentions de ce monde-là pour le monde d'après, alors que c'est quand même un environnement très singulier qui a aussi des conditions de vie très différentes.
Les premières suctions apparaissent entre la 12e et la 15e semaine. Pourquoi ce comportement inné est-il crucial dans la survie du nouveau-né ?
Ça va lui permettre d'avoir ce premier réflexe. En tout cas, si par exemple on pose un nouveau-né sur le ventre de sa mère, il va ramper, grimper instinctivement pour atteindre son sein. Alors il y a une stimulation de par l'odeur et le colostrum, mais il y a quelque chose qui va venir. Ça va lui permettre de téter et donc de se nourrir. Donc il y a quelque chose déjà de cet ordre-là qui est donc vital et très préparé effectivement dans l'intra-utérin. Je pense que c'est pas suffisant de regarder
en fait.
Ça.
Comme tous les
petits mammifères. C'est pour ça que je parlais du bébé petit mammifère quand il arrive au monde.
La succion du pouce témoigne du développement neurologique du fœtus.
Quand on entend tout ce qu'on s'est dit, au niveau embryologique, mécanique, au niveau justement de ce qui se passe au niveau neurologique, oui, quand on voit aussi ce qu'il va permettre en termes de fonction vitale, évidemment, oui.
Et pourquoi ? Pardon Ali, mais c'est vrai que ça demande un effort considérable à l'enfant, c'est-à-dire qu'une fois qu'il va naître, on imagine là dans son petit vaisseau aquatique dans le ventre de la maman, il est dans un milieu liquide, donc ça c'est formidable, mais une fois qu'il va être sujet à la gravité et qu'il va devoir porter sa main à la bouche, c'est un effort musculaire qui est extrêmement pesant pour l'enfant, et c'est aussi son développement neuronal qui va jouer oui. par rapport à cet acte, qui est loin d'être simple en réalité. Hein.
Tout à fait, il y a vraiment des enjeux très complexes, mais effectivement ça prend du temps, le bébé ne retrouve pas forcément son pouce, alors on peut le retrouver avec son pouce endormi, on n'a pas vu comment le pouce est arrivé, mais c'est pas le même milieu, on est dans le milieu anaérobie, et effectivement quelque chose va être de l'ordre de la gravité, donc on passe à autre chose encore. Oui.
Pourquoi certains bébés, certains enfants sucent leur pouce et d'autres pas?
Grande question. Je n'ai pas la prétention de pouvoir répondre à ça. C'est intéressant de regarder, effectivement, on pourrait faire du lien, savoir s'ils suçaient leur pouce in utero, s'il y avait quelque chose qui était tracé, s'il y avait quelque chose de l'ordre d'une forme d'habitude, s'il y a quelque chose de l'ordre du hasard. Et puis ensuite, on pourrait, vous en parliez tout à l'heure, Sabrina, il y a aussi la notion de téter ses lèvres, sa bouche, mais aussi sa langue. Il y en a qui têtent la langue, effectivement. Donc, pourquoi certains bébés ou pas? Est-ce que ça vient d'avant ou pas? Est-ce que c'est le fait du hasard, de quelque chose, c'est des questions.
Il y a peut-être un environnement aussi familial qui peut créer les conditions d'une succion prolongée, en tout cas chez un enfant, non?
Dans quel sens?
Le fait d'avoir besoin précisément d'être apaisé ou
et donc parce d'avoir, que la succion du pouce a des fonctions anxiolytiques
à portée de main pour
tout à fait. Il y a des fonctions de confort, d'apaisement, mais aussi une fonction anxiolytique effectivement. Je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'environnement extérieur, mais aussi qui est propre au bébé, hein, quelque part de sa physiologie, de qui il est. Donc je pense qu'il y a il y a des raisons externes mais aussi internes qui font qu'un bébé va sucer son pouce.
Et puis dans le livre, on apprend que Mathieu, en plus de sucer son pouce, suçait un morceau de chimpanzé.
Voilà, son doudou. Oui, alors attendez, il faut son préciser doudou. Les choses. C'était une peluche. Hein. C'était ma peluche qui s'appelait Chita. Ouais. Voilà, donc non seulement je suçais mon pouce, mais en plus je me grattais le nez avec mon index tout en reniflant l'odeur de Chita.
Vous n'avez pas l'image parce que Mathieu Bidard est en train de mimer.
Absolument. Voilà. Et en plus, Chita avait une odeur particulière parce que je refusais que ma mère la mette à la machine à laver. Hein.
Il y a quelque chose de très animal, on parlait du petit mammifère, mais ce qui est assez joli aussi de voir, c'est que souvent les bébés vont sucer leur pouce, mais après ils vont avoir peut-être un doudou en plus et ils vont, au niveau du tissu du doudou, avoir un petit frottement entre la pulpe du pouce et l'index, dans une forme de pince, mais plutôt assez sensorielle et assez douce.
Donc
quoi.
Ça multiplie tous les sens. Hein.
Ça multiplie tous les sens, mais il y a un véritable vortex sensoriel in utero qu'on peut retrouver comme ça peut-être après. Hein.
Aurélie nous écrit, ma fille de 4 ans et demi suce constamment son pouce. J'ai tout essayé pour lui enlever, mais elle y est accro. Est-ce qu'il faut dissuader les enfants de sucer leur pouce au-delà de 3 ou 4 ans? Nathalie Lancelin, U1.
Alors ça, c'est aussi très difficile.
Bon courage, hein.
De répondre. Ça dépend quel point de vue on adopte. Si on adopte le point de vue, à un moment donné, de la physiologie buccale, de la poussée des dents et des dentistes, bien évidemment, on sait qu'au bout d'un moment, ça va appuyer au niveau de la cavité buccale, déformer le palais possiblement, faire avancer les dents, donc avec un impact qu'on peut entendre. Si on est du point de vue, pas strictement du corps, mais de justement cette fonction anxiolytique, il y a peut-être aussi quelque chose de l'ordre du développement affectif. C'est pas pour rien, et c'est assez tabou, que des adultes reconnaissent à un moment donné sucer encore leur pouce.
C'est très tabou.
C'est très tabou parce qu'effectivement, on dit beaucoup d'ailleurs dans les arguments des enfants, pourquoi 3-4 ans? Parce qu'ils vont rentrer à la maternelle, ils vont être moqués, on les convainc qu'à un moment donné sucer son pouce c'est être un bébé, et les autres enfants vont leur dire qu'ils sont des bébés.
Mais alors comment aider son enfant à arrêter de sucer son pouce sans le traumatiser?
Ça c'est l'enjeu véritable. Il y a plein de positions là encore. Il y a des choses qui pourraient être des fonctions pour le divertir, donc de faire diversion sur d'autres choses. Il y a la fonction effectivement du fait qu'il va commencer à marcher, parler davantage, avoir ses dents. Donc on peut l'orienter vers quelque chose de l'ordre de la maturité. On peut aussi avoir des versions plus coercitives. Hein. On peut aussi avoir des versions dissuasives avec ces espèces de vernis qui sont amers.
Ah, il y a des instruments de torture pour les enfants. Il y a les mitaines de pouces.
Il y a les mitaines de pouces.
Écrit vers mes 9-10 ans sur les conseils de l'orthodontiste, mes parents m'ont affublé d'un couvre-pouce en cuir fermement attaché que je devais porter la nuit pour ne pas sucer mon pouce. J'employais toute mon énergie pour essayer de l'enlever et j'y arrivais parfois. C'est une petite torture.
Et dans ces cas-là, est-ce qu'on ne reporte pas sur une autre partie, voire le morceau de cuir? Enfin, je ne sais pas, justement, les chimpanzés péter autre chose que des pouces.
Oui, si on est dans cet intérêt psycho-émotionnel, à un moment donné, si on contraint quelque chose, parce qu'il y en a qui vont mettre un bout de laine avec un nœud, ce qui est très désagréable aussi, on peut, on déplace le problème sur autre chose, et je pense qu'on le retrouvera sur la tétée de la langue, sur une tétine, sur d'autres fonctions. On n'est pas là à surveiller les enfants la nuit, donc effectivement, on peut leur mettre quelque chose.
Tiens, nous avons au téléphone Rock. Bonjour Rock. Bienvenue dans notre émission.
Bonjour.
Alors, vous vouliez réagir à notre conversation. Vous êtes archer, c'est ça?
Archetier. Fabricant d'archets pour les instruments de musique.
D'accord. Alors, expliquez-nous un petit peu, Rock.
Et ben, donc, il y a 2 ans, on a diagnostiqué de la rhizarthrose.
Ah, c'est quoi?
Arthrose du pouce.
D'accord.
Voilà, et donc, ça m'handicapait énormément. J'arrivais plus à faire la pince dont on parlait tout à l'heure. Puis c'est extrêmement douloureux, des douleurs qui m'ont même quelquefois réveillé la nuit. Et donc, je me suis fait poser une prothèse il y a 6 mois maintenant sur la main gauche. Et puis, la main droite, ce sera le mois prochain. Et je suis ravi du résultat et je retrouve enfin mon pouce. Et en fait, ce que je voulais dire, c'est qu'on ne se rend compte de l'importance du pouce que quand on en a perdu l'usage. C'est un petit peu comme pour tout. Hein. On ne sait pas la chance qu'on a d'avoir un pouce qui fonctionne bien tant qu'on n'en a pas perdu l'usage.
Mais faites l'expérience, là, ceux qui nous écoutaient, de ne pas utiliser vos pouces pour saisir votre téléphone, votre tasse, votre stylo. C'est extrêmement difficile. Mathieu,
Oui. Même tenir le livre que vous êtes en train de lire, par exemple, c'est impossible sans les pouces. Alors par contre, c'est vrai que moi j'avais un ami de ma mère, quand j'étais enfant, qui était amputé des deux bras, et qui avait donc une dextérité avec ses jambes, c'est-à-dire qu'il faisait tout avec ses jambes, il conduisait même sa voiture, il avait un volant qui était aménagé pour que ses pieds puissent justement conduire sa voiture. Je me souviens de lui mettant sa ceinture de sécurité, manger tout à fait normalement à table avec une fourchette toujours tenue entre ses doigts de pied, et donc ça veut dire qu'on a quand même des capacités à pouvoir transférer finalement les fonctions dont on ne dispose plus, Sabrina.
Oui, c'est absolument incroyable l'adaptabilité du corps humain, mais de façon générale du corps animal. Hein. Nous, on a fait une étude justement sur les chimpanzés en Ouganda qui sont victimes du braconnage et qui sont donc amputés de pieds ou de mains, de doigts, de phalanges, etc. Et on a pu voir en fait que même donc sans mains, les chimpanzés sont non seulement capables de monter dans les arbres, de monter aussi haut que leurs congénères non handicapés, de pouvoir se nourrir des mêmes fruits, même des tout petits fruits. On parlait tout à l'heure de la précision. Alors évidemment, ils compensent avec les pieds, ils compensent avec la bouche, et bah, finalement, ils vont passer plus de temps à peut-être s'alimenter et moins de temps à interagir socialement, etc. Mais cette adaptabilité, elle est absolument incroyable, et aussi, ça permet de mettre en évidence l'empathie de certains congénères. Par exemple, on a des individus handicapés qui sont vraiment soutenus, aidés par le reste du groupe.
Mathieu ?
Mais la prothèse de pouce, c'est ce que dit monsieur, là, ça marche très très bien maintenant. Hein. Et c'est vrai que quand on a, par exemple, une blessure grave à la main ou une amputation des doigts, les chirurgiens, il y a un seul doigt qu'ils veulent absolument sauver, c'est le pouce, pour justement toujours pouvoir retrouver cette pince. C'est absolument fondamental. Donc, on peut faire plein de choses. Hein. C'est-à-dire que si, par exemple, vous perdez votre pouce, on peut utiliser votre index et changer les nerfs, les tendons pour en faire à nouveau un doigt opposable. Donc, vous pouvez avoir un index opposable. On peut même faire des greffes d'orteils pour le remplacer à la place du pouce. Enfin voilà, mais
Laurine,
il faut vraiment ça.
Laurine nous écrit, je suis étudiante en médecine et j'ai assisté à la greffe d'un orteil à la place du pouce chez un patient qu'il avait perdu lors d'un traumatisme. Cela montre l'importance du pouce et de votre livre, Mathieu Vidard. Tiens, on va se retrouver dans un instant, on va s'intéresser à l'utilisation du smartphone. Êtes-vous plutôt pouce ou index quand vous tapez vos SMS? Je devine, Mathieu, à quelle équipe vous appartenez. On se retrouve juste après avoir écouté Fatoumata Diawara qui interprète Mokogan.
had to pray for you. Lost in the memory and time, no be enemy. Heals until he becomes plain to you. Memory. Lights up and travel faster than the truth. Love, no be loud and silence to get proof. Oh no, not aloof, my darling. That he say and she say, I'm disregarding. Oh, but kind of quick.
Fatoumata Diawara interprété Mogokan.
Grand bien vous fasse.
Non mais c'est pas possible, c'est une erreur, le pouce en bas.
La jalousie.
Ali Rebéi.
Moi j'ai l'impression qu'il y a des gens qui mettent des pouces en bas sur des vidéos qui ont que des pouces en haut juste par esprit de contradiction.
Sur France Inter.
Comment le pouce a changé la face de l'humanité, c'est notre thème ce matin à l'occasion de la sortie de Sur le pouce de Mathieu Vidard. Avec nous également la vétérinaire et primatologue Sabrina Krief et la psychologue spécialisée en périnatalité Nathalie Lancelin. Eh ben, tiens, Elisa, qui nous envoie un sympathique message, une question pour Mathieu Vidard. À la fin de son livre, y a-t-il un index ?
Absolument, je confirme.
Voilà, petit clin d'œil d'Elisa. Un auditeur nous demande, et c'est une vaste question philosophique qui nous a bien animé pendant la pause musicale, à quoi ressemblerait-on si nous n'avions pas eu de pouce opposable. Ça tombe sur vous, Mathieu Vidard.
Ouais, ben, je crois qu'on n'a toujours pas la réponse. En tout cas, ça veut dire qu'il faudrait refaire le scénario et revenir au moins 45 millions d'années en arrière. C'est-à-dire quand on était vraiment juste des petits mammifères dans les arbres. Moi, j'ai pas de réponse. Enfin, on serait probablement encore dans les arbres, non, Sabrina?
Sabrina Krief.
Oui, probablement, mais c'est...
Je renvoie la patate.
Merci. Très difficile à imaginer. Enfin, en tout cas, il y a beaucoup d'autres espèces animales qui ont des pouces aussi dont ils se servent. Enfin, je sais pas, on parlait de la grenouille ou quoi. Enfin, des adaptations qui se sont développées même sans être des mammifères. Voilà, on aurait inventé autre chose probablement. On serait peut-être pas la même espèce et tout.
Oui, moi j'ai tendance à avancer comme Sabrina. Je pense que on refait ça en imaginant qu'on pourrait pas être ce qu'on est. Ben, effectivement, mais on aurait développé d'autres choses. Lesquelles? Quelles seraient leurs formes et leurs fonctions? On ne sait pas. Attends. Où est-ce que ça nous aurait emmené? On peut pas savoir. Non plus, mais bon.
Sur l'aspect utilisation d'outils, hein, il n'y a pas que les primates qui utilisent des outils. Oui. Même des dauphins qui n'ont pas de main utilisent des outils. Oui. Donc,
voilà. Avec sa trompe, oui, les corbeaux. Les...
Ouais. On parlait des personnes amputées, donc effectivement, on aurait développé d'autres choses, lesquelles c'est difficile vrai. De savoir.
Alors, Nicolas nous dit, étant élagueur grimpeur en Bretagne, me voilà primate arboricole de nouveau.
Mais oui.
Je confirme que sans le pouce, je serais bien incapable de grimper.
Mais c'est ça, en fait. C'est notre histoire ancienne. À travers ce métier qui renaît, là, qui existe.
Oui. Alors, venons-en aux smartphones, les smartphones qui ont révolutionné nos vies, Mathieu Vidard. Quand vous tapez vos SMS, vos messages, vous utilisez plutôt votre pouce ou votre index?
Bah, je suis un boomer, donc évidemment, moi, c'est mon index. D'ailleurs, qu'est-ce que mes neveux ont pu se foutre
oui,
de moi?
Ils se foutent de vous, hein, quand même.
En voyant le temps que je mets pour écrire un message. Quoi.
Alors, moi, j'utilise mon pouce droit. La jeune génération dans le bureau utilise ses deux pouces pour écrire à toute vitesse.
Et c'est ce qui est le plus rapide.
On tape plus vite avec ses deux pouces. Les 10, parce qu'il y a des études qui ont été menées sur ce sujet, les 10-19 ans frappent nettement plus vite que les quinquagénaires comme vous, Mathieu Vidard.
Oui.
Et donc, oui, c'est un marqueur générationnel quand même, taper ses SMS ou ses messages avec son index, avec son pouce droit, avec les deux pouces.
Bah, il y a les digital natifs quoi, qui sont nés avec ces nouvelles technologies qui sont très récentes. Hein. Il faut se souvenir quand même que le premier smartphone, c'est 2007, présenté par Steve Jobs. Donc c'est vraiment très récent. Donc toute notre génération là de quinca, par exemple, on n'a pas eu l'habitude. Donc il a fallu qu'on se mette aussi à...
Question intéressante d'Alan qui nous dit, est-ce que les nouvelles technologies pourraient à long terme modifier la morphologie du pouce ?
Alors ça, c'est le grand fantasme. Hein. Mmh. C'est le pouce mutant. Mmh. Est-ce que, à force d'utiliser notre pouce, on va avoir un énorme pouce dans quelques années ? Alors non, a priori non. D'abord parce que du point de vue de l'évolution, ce serait pas pratique du tout. Alors oui, peut-être pour taper, j'en sais rien, même pas pour taper d'ailleurs sur un clavier, ce serait très problématique. Mmh. Mais c'est surtout qu'en réalité, il y a d'autres technologies qui vont supplanter l'usage de nos pouces, comme par exemple la reconnaissance vocale qui existe déjà, ou même les interfaces cerveau-machine. On voit qu'aujourd'hui, même rien qu'avec la pensée, on peut produire du contenu, produire des textes. Et donc, dans les prochaines années, la reconnaissance vocale va être beaucoup plus efficace que de taper un texto avec nos pouces. Hein.
Alors, à l'ère des réseaux sociaux, le pouce levé pour liker, pour dire j'aime sur Facebook, par exemple, a bouleversé notre relation aux autres. Le bouton like, le pouce levé est né le 9 février 2009. Ouais. Comment expliquer l'incroyable succès de ce bouton like, de ce pouce levé? Il raconte quoi? Il raconte notre profond désir de validation sociale, oui, notre dépendance au regard des autres.
Oui, c'est vraiment l'approbation sociale. Et c'est vrai que ce qui est amusant, d'ailleurs, c'est que quand ce bouton like a été lancé, Mark Zuckerberg, au départ, n'était pas du tout...
Il n'y croyait pas.
Non, il n'y croyait pas du tout. Et en plus, le pouce était très embêtant parce que dans certaines cultures, c'est extrêmement péjoratif.
Oui, c'est ce que je voulais dire. J'ai appris en lisant le livre de Mathieu qu'il fallait faire attention quand on faisait de l'autostop ou qu'on mettait le doigt en l'air. Vida.
C'est comme un doigt d'honneur en fait.
Ah d'accord.
Voilà, dans certains pays, au Vietnam par exemple.
Ah, d'accord. Au Vietnam, on évite. Voilà.
Donc Zuckerberg chez Facebook, il n'était pas très chaud. Puis il s'est dit bon allez, on va quand même y aller. Il a été convaincu en fait que les internautes allaient quand même partager leur contenu parce qu'en fait c'était ça qui l'inquiétait, c'est qu'avec l'approbation, on ne partage pas le contenu et donc ça s'est fait et c'est devenu un succès mais considérable.
On termine avec le légendaire pouce levé ou baissé que l'on voit dans certains péplums. Est-ce que ce pouce levé est-ce qu'il a une réalité historique dans l'Antiquité romaine? Est-ce que dans les arènes on levait le pouce ou est-ce qu'on le baissait? On doit cette légende à qui? Je crois que c'est un peintre du XIXe siècle, Jean-Léon Gérôme.
Voilà, c'est un peintre, on dirait un peintre pompier aujourd'hui, c'est-à-dire que c'était un peintre très académique qui aimait bien les grandes fresque grandiloquente, c'était Napoléon qui arrive en Égypte face au Sphinx sur son cheval, et donc il a fait un tableau qui s'appelait Police Verso.
Bas les pouces,
voilà,
peint en 1872.
C'est ça, on voit justement une scène dans une arène antique avec un gladiateur qui est donc victorieux et il attend l'approbation justement des Vestales qui sont là dans le public pour savoir s'il doit donner le coup de grâce, exactement. Et donc on voit les Vestales sur le tableau qui baissent leurs pouces, qui retournent leurs pouces, et en fait ça c'est une invention pure de ce peintre, parce que jamais dans l'iconographie ou dans les textes antiques on a retrouvé ce geste. C'est un historien qui s'appelle Éric Tessier qui m'a donné des infos, qui a fait un travail là-dessus, parce qu'il étudie la gladiature. Jamais, jamais ça n'a été produit. Et ce tableau a inspiré ensuite des cinéastes, il y a eu Covadis en 1913.
Exactement.
Spartacus ensuite de Stanley Kubrick, et puis Gladiator de Ridley Scott. Tout ça, ça reprend cette imagerie, et c'est devenu pour tout le monde une vérité historique, alors que c'est complètement fake.
On pourrait parler de mille et une choses encore. Tiens, le port de la bague au pouce, par exemple. Mais il faudra lire votre livre, Mathieu Vidard, parce qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à apprendre sur le pouce. C'est absolument passionnant. Merci beaucoup, Mathieu,
merci
d'être
beaucoup.
Revenu. On vous retrouve pas à 14h parce que vous êtes censé
Daniel
être en
Fievé.
Vacances.
Et
donc,
de la Terre
c'est notre
au carré.
Ami Daniel Fievé qui sera aux commandes de la Terre au Carré à 14h. Merci à tous. Merci à tous les auditeurs. Merci à ceux qui vous nous écoutez toujours plus nombreux. Vous êtes 1 320 000 tous les matins. Merci à vous tous. Merci Sabrina Krief d'être venue, Nathalie Lancelin-Huin. Tiens, vous reviendrez avec pour plaisir. Parler de la vie intra-utérine et vous, Sabrina Krief, pour parler des primates. Merci
avec
à tous.
Plaisir.
Au revoir, grand singe.
Merci, c'est gentil. Et demain, on s'intéresse aux recettes ratées. Hein, comment rattraper des recettes ratées? Vous avez des ratages, vous, en cuisine?
Ah, mais moi, je ne fais pas la cuisine. Ah, bon, c'est ça, c'est le seul problème.
Du coup, le problème est réglé.
Hein, c'est mon conjoint qui fait la cuisine.
À tout à l'heure.